rendez-vous du Mondial du bâtiment. Une matinée par mois pour comprendre tous les enjeux de la filière du bâtiment, animée par Nathalie Croiset.
Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live depuis les studios de Bâti Radio. C'est donc la 8e édition, je me répète, mais pour ceux qui nous retrouveraient ou qui seraient en train de nous rejoindre, vous le savez, le Mondial du bâtiment aura lieu en octobre 2022, du 3 au 6 octobre précisément, mais les organisateurs, Rex Global, l'AFISB et Uniclimat, estiment important de continuer à vous informer tant que nous ne pouvons pas toujours nous retrouver. On sait bien, les conditions sanitaires sont pas vraiment très simples. Donc Batimat, Ideobain et Interclimat vous proposent une émission en live tous les premiers vendredis du mois afin de vous éclairer sur les transformations dans le secteur du bâtiment et de décrypter les grandes tendances de la construction. On est ravis d'accueillir en grand témoin aujourd'hui Dominique Naert, bonjour.
Bonjour.
Qui est donc directeur du master spécialisé exécutif immobilier et bâtiment durable à l'école des ponts Paris-TEP. Et vous êtes aussi l'auteur de ce livre que je présente. De la même façon, c'est bien comme les auteurs et comme les présentateurs littéraires. Immobilier et bâtiment durable. Réussir la transition carbone et numérique. Vous allez en parler avec nous dans un instant. Mais tout d'abord, je me tourne vers Guillaume Loiseau. Bonjour.
Bonjour Nathalie.
Qui est directeur du Mondial du bâtiment. Alors, je le disais, 8e édition et c'est pas fini. Je crois savoir qu'il va y avoir une saison 2. C'est comme les séries
sur Netflix.
Absolument,
c'est la dernière de la saison 1. Et on est en pleine préparation avec l'ensemble des partenaires de la saison 2 qui commencera donc tout début janvier avec le même format, le même rendez-vous, donc le premier vendredi de chaque mois, le matin, avec vous Nathalie, bien sûr, ça sera toujours un plaisir sur cette saison 2 et puis l'ensemble de nos partenaires. Et on aura d'ailleurs un nouveau partenaire, mais qui sera invité certainement à la première, c'est le Club de l'amélioration de l'habitat que beaucoup de nos auditeurs connaissent, j'en suis sûr. Voilà, donc je suis ravi de clôturer avec vous cette saison 1. De façon plus particulière, ravi d'accueillir Dominique Naert aujourd'hui qui fait beaucoup de choses exceptionnelles et qui est un homme exceptionnel, mais il se présentera. Je vous donne rendez-vous pour cette saison 2 début janvier.
Voilà, exactement, avec peut-être des petits ajustements justement, mais on en parlera.
Oui,
et
on présentera l'agenda de la saison 2.
Exactement, tout à fait. Alors, on se tourne à nouveau vers notre grand témoin Dominique Naert, donc avec ce livre chez Erol qui va servir un peu de base à nos échanges, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vu l'épaisseur, on pourrait en parler pendant des heures. Mais d'abord, j'aimerais bien parler de l'école des ponts Paris-Tech avec vous, puisque vous êtes directeur d'un master. La transition écologique, elle est vraiment au cœur de cette école.
Effectivement, la transition écologique est maintenant, on va dire, la ligne rouge que nous suivons à l'intérieur de l'école, que ce soit pour la formation des ingénieurs, que ce soit pour les masters spécialisés. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental pour nous et qui va être, je pense, encore plus développé les prochaines années.
Parce que l'objectif, et ici on parle beaucoup de formation, on parle beaucoup des métiers, c'est de former aussi les ingénieurs à ces métiers et à ces enjeux du développement durable. C'est transverse finalement cette formation.
C'est une formation transverse. D'ailleurs, quand on regarde le master spécialisé de immobilier bâtiment durable, transition énergétique et numérique, et on va rajouter carbone bientôt, eh bien, on s'aperçoit que les masteriens qui viennent à l'intérieur de ce master sont des gens de toutes les formations. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des ingénieurs, des architectes, mais vous avez aussi des gens qui sont dans la finance, des gens qui sont dans le numérique, des gens qui sont dans l'informatique, des commerciaux aussi. Et c'est extrêmement important d'acculturer toutes ces strates-là.
Et est-ce qu'il vous pousse aussi, on dit souvent que les jeunes évidemment sont tournés vers ces enjeux de la transition écologique, est-ce qu'il vous pousse aussi à bouger, à en faire toujours plus dans ce domaine-là?
C'est-à-dire qu'on a une exigence déjà parce que c'est l'école des ponts, et notre exigence parce que on ne peut pas avoir créé un master comme ça et ne pas être passionné. Il nous pousse, mais je tiens quand même à tempérer les choses au niveau de la jeunesse, parce que les plus jeunes effectivement ont 26-27 ans, ouais. Ce sont toujours des gens qui ont un peu d'expérience de toute façon, et les plus anciens c'est 58-59 ans,
oui,
et la moyenne d'âge, on va dire 36-37 ans. Donc, si vous voulez, malgré tout, ouais. Effectivement, on voit des gens de plus en plus investi. Et en fait, le master a 10 ans, ça va faire la 10e année de diplomation. En 10 ans de temps, on voit une évolution dans le public, et en plus une bonne quantité. Enfin, on voit les effectifs grossir toujours, donc ça veut dire qu'effectivement c'est maintenant le sujet, l'enjeu.
Alors, on va arriver sur le sujet de l'immobilier dans un instant, mais continuons un peu justement avec les métiers dont on parle aussi régulièrement dans cette émission, le rendez-vous du Mondial du bâtiment. Vous, vous avez vraiment, on va dire entre parenthèses, une obsession, c'est vraiment de rendre attractif les métiers, de propulser, on va dire, tous ceux qui se forment vers les enjeux de la transition écologique ?
Absolument. Alors d'abord, je rappelle que je suis un homme de métier au départ. Je suis maçon et tailleur de pierre, mais essentiellement, j'ai fait un compagnonnage de maçonnerie, en maçonnerie. Donc, si vous voulez, je reste persuadé que d'abord, il faut se former tout au long de sa vie. Moi, j'ai commencé il y a 50 ans maintenant et j'ai fait un master spécialisé à l'âge de 59 ans à l'école des Ponts que je dirige aujourd'hui.
Voilà, comme ça, c'est pour ça que vous pouvez donner cette fourchette aussi.
Exactement. Et ce qui est important, c'est effectivement avoir des gens qui savent de quoi ils parlent quand ils évoquent le bâtiment. Le bâtiment se complexifie. C'est pas que c'était simple au départ, mais tout se complexifie aujourd'hui par le numérique, par le digital, par tout ce que vous voulez. Mais la problématique d'aujourd'hui, c'est une évolution de la pensée, c'est une évolution du système constructif, une sorte de révolution, et il faut pouvoir s'adapter. Et pour ça, il faut d'un côté attirer la jeunesse vers ces métiers-là, qui ont été quand même, pour la plupart, mal perçus, en tout cas dévalorisés, en tout cas dans les métiers de terrain, dans les opérationnels. Et on a besoin aujourd'hui de quasiment doubler les effectifs, c'est mon point de vue, pour pouvoir atteindre les objectifs à 2050. Et pour ça, il nous faut à la fois des opérationnels, à la fois des ingénieurs, à la fois des architectes, à la fois des financiers, à la fois des tas de gens qui peuvent encadrer ce bâtiment et atteindre les objectifs qui sont absolument nécessaires. Et la jeunesse est extrêmement intéressée, non seulement par le numérique, mais aussi par donner un sens à leurs travaux, et en particulier le développement durable, c'est quelque chose de fondamental. C'est comme ça que, à mon sens, on continuera d'attirer ou on développera l'attractivité des métiers.
Alors l'attractivité, vous avez parlé des métiers, ingénieur, bureau d'études, architecte, vous les avez détaillés. Il y aura aussi besoin toujours, alors même si ici on parle beaucoup de hors-site aussi, mais de personnes sur les chantiers, même peut-être avec d'autres compétences ou des compétences aussi en amont.
On a une évolution des compétences, évidemment. En particulier, quand on travaille en rénovation, en réhabilitation, en restauration de monuments historiques, on a besoin d'hommes de métier et de femmes de métier qui sont manuellement compétents. En tout cas, qui ont une dextérité, qui ont un savoir-faire. Mais évidemment, on va développer à travers Energy Sprong ou à travers le hors-site d'autres compétences, et en particulier une industrialisation, une façon de faire qui va se rapprocher d'autres industries. Moi, j'ai l'habitude de penser que le 21e siècle sera plus les métiers du bâtiment que les métiers de la mécanique ou encore que les métiers de l'aviation. Mais ça, c'est mon point de vue. Mais c'est
pourquoi c'est... Parce que c'est là que se situent les plus grands défis aussi à relever, puisqu'on connaît les enjeux, l'impact qu'a aussi le bâtiment, et à quel point le secteur a pu être polluant et doit évoluer. C'est ça ?
Alors d'abord, parce qu'on ne peut pas atteindre les objectifs neutralité carbone à 2050 si on les atteint sans avoir réglé le problème du bâtiment, de l'habitat. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, si on a de la chance avec nous, on aura de la chance tout simplement parce que si on n'a pas de pandémie ou encore de catastrophe systémique, on aura quasiment 10 milliards d'habitants en 2050, d'ici 30 ans. Il va falloir aussi que ça se mette en place, c'est-à-dire qu'il va falloir les loger, ces gens-là. Donc l'habitat va continuer de se développer. Puis j'aime à rappeler aussi que l'immobilier, c'est 217 000 milliards de dollars qui représentent à peu près 3 fois le PIB mondial. Et en même temps, c'est l'équivalent, c'est largement supérieur aux investissements financiers. Ce que je veux dire par là, c'est tellement important, et la valorisation, et on voit en plus l'évolution des prix de marché, qui fait que de toute façon, d'un côté, c'est fondamental sur le plan financier, et d'autre part, c'est fondamental sur le plan du développement durable.
Et alors, dans les grands enjeux, puisqu'on parle du bâtiment, qu'on parle aussi d'efficacité énergétique, on parle beaucoup de rénovation énergétique, on va dire que ça a été un peu le serpent de mer pendant un temps. On se demandait comment on allait faire pour accélérer et passer à la vitesse supérieure. Là, on a l'impression, il y a eu MaPrimeRénov qui, visiblement, est un grand succès. En tout cas, il y a beaucoup de demandes. Il y a eu un coup de booster avec le plan France Relance. Comment vous les voyez, ces enjeux ? On est encore en retard, on peut le dire, Dominique Nahert.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ça s'organise. Le principe de ce genre de choses, c'est qu'il faut du temps pour mettre les choses en place. On voit effectivement les artisans qui aujourd'hui, depuis six mois, remplissent leur carnet de commandes. Et il n'est pas rare de voir des artisans qui ont un an, deux ans d'avance au niveau de leur carnet de commandes. Entre-temps, effectivement, ça s'est raréfié. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu beaucoup de... On a aussi des artisans qui étaient de la génération Papy Boom. Je suis un papy boomer, je peux donc en parler. Eh bien, effectivement, si vous voulez, on a une décroissance. Je crois qu'il y a quelque chose comme 100 000 artisans et ouvriers du bâtiment en moins depuis 5 ans. Mmh. Ce qui veut dire par là qu'aujourd'hui, on a une problématique, c'est-à-dire une relance, un besoin, et en même temps,
mais parce qu'il faudrait quoi,
on n'est pas au rendez-vous.
Rénover 1 million de logements par an, il faudrait, si on veut atteindre ce fameux objectif dont vous parliez, la neutralité carbone à l'horizon 2050.
Il y a 30 millions, c'est pas compliqué, il y a 30 millions de logements à rénover en France, et sur 30 ans. Là, c'est quand même facile à faire la division. Mais la SNBC, enfin le schéma national bas carbone, lui,
la stratégie nationale
bas carbone considère que c'est, enfin, à projeter 500 000. Bon, 500 000 logements rénovés. Aujourd'hui, on est à autour de 380 000 et encore. Par geste, grosso modo, en rénovation globale, parce qu'on ne peut pas atteindre l'objectif, en tout cas les performances nécessaires pour atteindre le bas carbone, le bas carbone et l'énergie basse consommation, si on ne fait pas de rénovation globale. Donc on est autour entre 20 000 et 40 000 par an. Donc entre 20 000 logements et 40 000 par an, vous faites votre multiplication, ça ne marche pas non plus. Donc, on a une équation à quelques inconnus, et ces inconnus-là, pour l'instant, on n'y a pas encore mis les moyens, et c'est sur ce sur quoi tout le monde réfléchit actuellement.
D'accord, donc les moyens, c'est surtout des moyens humains, d'après ce que j'entends, parce qu'on met de l'argent, il y a de l'accompagnement, on va chercher les particuliers avec MaPrimeRénov, mais du côté des professionnels, il faut aussi les accompagner, c'est ça?
C'est-à-dire qu'il faut agir à plusieurs niveaux. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de la construction hors site, que ce soit d'ailleurs dans la rénovation ou que ce soit dans la construction neuve, mais en rénovation pure, il faut à la fois plus de professionnels, plus de manuels, on va dire, de col bleu. Il faut aussi des coordinateurs, il faut des accompagnateurs, il faut aussi des tiers de confiance, parce que tout ça nécessite de revoir l'ensemble de la filière, l'ensemble de l'écosystème.
Alors il y a un autre sujet que vous abordez dans ce livre, chez Erol, j'ai dit épais, immobilier et bâtiment durable qui sous votre direction et aussi celle de Jean Carassus, il faut le citer également, c'est la question du digital, que vous avez déjà évoqué, le numérique, vous dites l'outil digital joue un rôle de plus en plus important dans la planification, la construction et l'exploitation des immeubles. Ici dans cette émission, on a déjà parlé notamment du BIM. Bon, il faut pas non plus que ça soit c'est un peu l'objet du débat, un peu tarte à la crème, l'air de dire on colle du digital, ça va fonctionner. Il y a quand même autre chose à faire et à voir derrière.
Moi, ce qui m'importe dans le digital, c'est cette capacité, d'abord, d'attirer la jeunesse. Ça, c'est déjà une première chose. La deuxième chose, de planifier, de gérer, d'être plus transparent et faire en sorte qu'on soit plus productif. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, l'intérêt du digital, c'est d'économiser le gaspillage. La première chose. On parle de sobriété en général. La sobriété, c'est d'abord, arrêtons le gaspillage. Donc, quand on construit, qu'on démolit, qu'on reconstruit, vous imaginez que non seulement on perd de la productivité, donc la capacité d'investir et la capacité de rémunérer correctement les gens, mais aussi on gaspille du matériau, donc on gaspille aussi des EGS, c'est-à-dire en fait du carbone, et tout ça, il faut absolument réussir à l'endiguer. Et pour l'endiguer, effectivement, l'outil, parce que c'est un outil, l'outil numérique est fondamental aujourd'hui.
Et en fait, il est transverse aussi, toutes les filières sont impactées, il faut bien le dire.
Toutes les filières sont impactées, mais que ce soit d'ailleurs au niveau de la gestion des immeubles, avec la PropTech, mais aussi, enfin, là, nous, on a 11 semaines de formation qui se retrouvent dans le livre avec 11 chapitres. Dans ces 11 chapitres, systématiquement, vous avez le fil rouge numérique parce qu'on a un outil numérique à chaque endroit.
Alors, est-ce que vous comprenez justement aussi que certains disent, voilà, le BIM, on nous l'a vendu comme un outil miracle. Bon, finalement, c'est un outil simple, mais bon, il faut arrêter aussi de fantasmer un peu autour du numérique ou de se dire à l'inverse, oh là là, ça va nous compliquer la vie.
Ah non, non, ça complique pas la vie.
Ça complique oui, mais il y a encore certains acteurs qui ont besoin d'être rassurés, on va dire. Bah, clairement.
La plupart du temps, les acteurs qui sont à rassurer sont souvent des acteurs qui n'ont pas touché au numérique. En tout cas, qui ne l'ont pas utilisé dans leur chantier. Alors, je vais peut-être me faire des ennemis, mais toujours est-il, je peux vous assurer que j'ai fait un chantier il y a maintenant 6 ou 7 ans avec entouré que d'artisans et que ces artisans-là se sont mis au BIM et ont été extrêmement satisfaits. Le seul problème qu'il y avait, c'est que les chantiers suivants, ils n'ont pas fait de BIM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire une montée générale dans ce processus. Et qu'est-ce que c'est que le BIM pour moi? C'est en fait du Lean, c'est-à-dire comment trouver des solutions intelligentes et collectives pour être le plus efficace possible. Et on utilise pour ça une plateforme et une maquette numérique pour mieux se comprendre. Voilà, c'est tout.
Donc voilà, c'est simple. Alors, autre sujet que vous abordez qui est important, hein, c'est la question, et vous l'évoquez, hein, il va y avoir aussi de plus en plus d'habitants en ville. C'est la question de la ville et des quartiers durables. Quels sont les enjeux qu'il y a derrière ces sujets-là?
Alors, j'aime bien reprendre l'une des auteurs de ce livre qui s'appelle Sonia Lavellino, qui dit « La ville, la véritable ville, c'est la ville du dehors ». Quand vous êtes à l'intérieur de chez vous, même si vous habitez en plein 16e, vous êtes dans un bâtiment. Dès que vous sortez, vous êtes en ville.
Ouais.
Et la ville, c'est et ce qui est important dans la ville, c'est justement la dimension durable, c'est-à-dire les trois piliers du durable que vous connaissez, c'est-à-dire l'économie, évidemment, l'environnement, on en parle, et c'est fondamental, surtout dans un milieu de pollution. Et puis ensuite, le social et le sociétal. C'est-à-dire qu'en fait, une ville est faite pour des habitants, pour des usagers, pour des gens qui viennent faire du commerce, pour des gens qui viennent faire de l'industrie, pour des gens qui viennent faire des chantiers. Et si vous prenez pas en compte l'usager, c'est-à-dire l'habitant, ça ne fonctionne pas. Et on a trop souvent penser à séparer les gens, c'est-à-dire en fait quand vous avez la banlieue, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est le lieu du banc, c'est-à-dire on externalise les gens qui ne nous conviennent pas, et bien aujourd'hui il faut plutôt rassembler les gens, c'est-à-dire que le maître mot du durable c'est quand même l'intelligence collective, c'est faire dialoguer les gens, que ce soit d'ailleurs quand on fait du BIM, c'est Building Information Modeling, ça peut être l'information, c'est-à-dire le numérique, mais surtout le management et le management du collectif, et bien dans une ville, ce qui est important, c'est faire dialoguer les gens ensemble. Et quand on parle, par exemple, tout à l'heure, on va arriver sur la programmation, je suis désolé, je suis un peu en avance de phase là. Eh bien, là encore, si vous ne prenez pas les usagers ou les mainteneurs dès le départ, quasiment dès la programmation, on peut vous considérer que de toute façon, il y aura des erreurs à la fin.
Ouais, donc, vous parlez de ville qui doit être interconnectée.
Les villes doivent être interconnectées. Alors bon, on veut parler aussi après l'outil qui va avec, c'est la Smart City.
Oui, mais ça c'est pareil. La Smart City, on en avait mis un peu partout il y a quelques temps. Et puis finalement, on voit que ça renvoie à une autre réalité. Enfin, de la même façon, voilà, si on met du numérique, des choses partout, je pense que ce qui compte avant tout, c'est l'humain, sont les services et de rapprocher les uns et les autres. C'est ce dont vous parliez.
C'est rapprocher les uns et les autres, mais la Smart est extrêmement intéressant. Alors la problématique que nous avons eue avec le quartier durable, par exemple, ou avec la Smart City, c'est que vous faites des expérimentations et vous focalisez dessus, comme le BIM d'ailleurs, on focalise là-dessus et on se dit, au bout d'un moment, on dit, bon, il y en a marre, ça fonctionne pas tout ça.
Non, puis on a l'impression qu'il y a une Smart City quelque part et puis le reste autour, là, un peu, qui...
On
sait pas trop ce qu'il y a autour,
finalement.
Mais parce
que ce sont des spots et que à la fin, il faut faire en sorte que ça se généralise. Quand on a fait une expérience, aujourd'hui, notre problématique, c'est partir du particulier, c'est-à-dire en fait des sites comme ça circonscrits, et puis il faut absolument généraliser les choses.
Il y a un gros chapitre aussi qui est consacré, et ça c'est un sujet majeur, au financement aussi de l'immobilier durable. Là, c'est aussi un des grands enjeux.
C'est un grand enjeu parce que, alors bon, effectivement, tout à l'heure vous avez parlé de ma prime rénov, de tous les systèmes qui ont été mis en place, et en particulier France Finance, mais on est sur des schémas financiers qui peuvent évoluer. Il faut absolument aussi que nous soyons, comment on peut appeler ça, créatif en termes de finances vertes. Et en particulier, vous avez aujourd'hui la capacité, il y a des expérimentations d'achat de foncier qui sont payés in fine, 50 ans plus tard. Et vous avez comme ça des expérimentations qui se font un petit peu à travers le monde et que nous percevons à travers, on organise à l'École des Ponts une semaine internationale et on fait venir des gens des quatre coins du monde, c'est-à-dire des cinq continents en fait. Mmh. Et bien, on s'aperçoit qu'il y a des initiatives qui sont extrêmement intéressantes et qui pourront aujourd'hui venir illustrer, ou en tout cas réenchanter un petit peu ce monde un peu compliqué.
Donc ça voulait dire que finalement, elle va évoluer aussi cette finance au contact de l'immobilier durable, du durable tout court.
Alors d'abord, la finance évolue. Mais non seulement ça, on va dire que l'investissement immobilier est en train d'évoluer. Mmh. Tout simplement parce qu'on prend en compte maintenant ce qu'on va appeler les ESG, c'est-à-dire tout ce qui est autour
Critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance.
Et gouvernance. Mmh. Et tout ça, ce qu'on va appeler donc les hors-bilans, c'est-à-dire en fait les comptes hors-bilans, sont aussi importants. Ouais. Désormais que ce qui est matériel ou purement on a l'habitude de dire que dans l'immobilier il y a trois règles: la localisation. Aujourd'hui c'est complètement dépassé tout ça, ouais. Enfin c'est en train de se dépasser, c'est ouais. Pas complètement dépassé, mais c'est en train de se dépasser. Et puis l'après-pandémie nous montre, ou en tout cas la pandémie nous a montré qu'effectivement la localisation n'est plus tout à fait en train d'évoluer, enfin en tout cas c'est en train d'évoluer.
Et puisque vous parliez de faire du lien, est-ce qu'aussi on peut envisager des formes de financement participatif dont on parle de plus en plus, dans des types de financement, justement pour engager un peu plus, on va dire, les habitants dans une démarche ?
Absolument, les microcrédits, les financements participatifs sont des choses qui se développent. Vous savez, il y a beaucoup moi j'aime beaucoup cette période de la vie qui, pour moi, j'aurais 20 ans de moins, ça aurait été formidable, parce que j'aime beaucoup cette période. C'est une période où on prend conscience de la gabegie que nous avons développée. C'est notre génération qui a développé cette gabegie-là. Et en même temps, il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'initiatives qui sont de toutes les générations, essentiellement des jeunes d'ailleurs, qui trouvent des solutions nouvelles. Et le participatif, l'associatif, c'est quelque chose qui se développe beaucoup en France comme à l'étranger, mais la France n'est pas en reste dans ce domaine.
Voilà, on a peut-être créé ça aussi, mais il faut le dire, on n'était sûrement pas assez informés et pas assez tournés encore vers ces sujets-là.
On n'était pas assez tournés vers ces sujets-là, puis on était un peu tournés vers soi. voilà, on était peut-être un peu auto-centrés.
Et Guillaume Loiseau. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites depuis 20 minutes.
De dire quelque chose de pertinent après ce qui vient d'être développé par Dominique. Alors, je vais dire juste une phrase, comme ça je ne m'aventure pas trop. Mais Dominique vient de nous faire la démonstration que le bâtiment, la construction immobilière, c'est the place to be. C'est là que ça va se passer dans les 20 prochaines années.
Absolument.
Je dis ça pour les très jeunes, ou ceux qui sont encore en phase de questionnement, ou de choix de filière pédagogique, de formation, apprentissage bien sûr, et puis aussi pour l'ensemble des professionnels qui nous écoutent. Ce secteur, notre secteur, est celui, pour le siècle en cours, qui va être porter l'ensemble des défis français et de la société française. C'est là que ça va se passer. Et quelque part, c'est une sacrée confiance, en même temps un peu de pression, parce que les défis et la complexité des sujets est immense. Mais c'est vraiment là, en fait, que ça va jouer. Donc il y a beaucoup à faire. Et en même temps, pour tous les professionnels d'aujourd'hui, où on a tous été formés assez souvent quand même dans une typologie de spécialité, un schéma de pensée, si on prend un terme plus négatif, un silo de métier, mais peu importe. On a été construit mentalement comme ça par la formation et les gens qui nous ont inspirés, qui nous ont entourés. Et la formidable opportunité, je ne vais pas dire que c'est... Bien sûr, c'est de la complexité, bien sûr, c'est difficile. Mais regardons plutôt le bénéfice que le mythe du problème. Le bénéfice, en fait, c'est un superbe développement personnel à travers cette activité professionnelle. C'est-à-dire l'occasion de plus travailler avec les autres, d'acquérir de nouvelles compétences, de mieux connecter certaines compétences entre elles, puisque en fait, ce que Dominique vient de nous dire, c'est que tout va être basé sur des effets de réseau. L'expérimentation faite une fois, deux fois, n'a pas de sens. Bien sûr, en fait, que ça pose problème, que les gens ne comprennent pas, disent que c'est difficile, que c'est compliqué, et on dit que ça va pas, alors après on dit que c'est le serpent de mer. Bah oui, en fait. Moi, si on me montre tout à l'heure un nouveau logiciel que j'ai jamais vu, que j'essaye de m'en servir cet après-midi une fois, mais ce soir, je vais dire, mais il est compliqué ce logiciel. Si je recommence demain matin, je veux dire, j'ai pas encore tout compris. Donc l'expérimentation n'a pas de sens, en fait, pour le futur. Ce qui a du sens, c'est la réplication des choses, dupliquer les expériences, connecter les gens. Dominique disait connecter les villes. La Smart City, c'est de la connexion et des effets de réseau. C'est comme ça que ça existera et que ça sera pas, qu'on passera de la science-fiction d'avant à la réalité de la façon d'habiter de demain. Donc tout ça est... On peut le décrire sur des registres très négatifs en disant ça marchera pas, on comprend pas, ils sont pas prêts, ils comprennent rien, etc. Ça présente assez peu d'intérêt. Et Dominique incarne cette vision-là et on la partage jusqu'au bout des ongles tous les deux. Parlons en fait des bénéfices. Et je dis volontairement pas que des solutions, parce que ce ne sont que des moyens. Le BIM, toutes les innovations, la déferlante d'innovation que l'on a chaque année par la formidable machine de R&D de nos amis industriels et tant d'autres, les fournisseurs de services, et aussi les architectes, les ingénieurs. Parlons des bénéfices, en fait, du formidable projet que cela peut amener. Je dis que cela peut, parce qu'il faut être vigilant sur un certain nombre de changements de comportement, sur des nouvelles façons d'habiter, de communiquer, de travailler et de faire du vivre ensemble. Donc, moi, j'ai grandi avec cette phrase que je me suis moi-même appropriée de temps en temps, qu'on adore tous, qui est « quand le bâtiment va, tout va ».
Donc au moins,
donc je fais partie de cette génération qui a baigné avec cette phrase, toi aussi je crois Dominique, et en fait cette phrase dit fait référence surtout à la vitalité économique du secteur. Donc quand il y a une bonne dynamique économique du secteur du bâtiment, la France va mieux. Moi je pense que pour les 10 années à venir, c'est avec le bâtiment, la France ira. Voilà. Et ce défi de la décarbonation de la société et d'un certain nombre de pratiques se fera essentiellement avec l'ensemble des professionnels du bâtiment et de l'immobilier. Ça n'est plus une option, certitude.
Je vois Guillaume enthousiaste, on va arriver à la conclusion, parce que c'est important et ça fait vraiment écho à ce livre et à ce que vous dites, puisque finalement, vous le dites, la filière du bâtiment se réinvente, doit se réinventer, et vous proposez aussi d'aller vers un nouveau paradigme aussi, et de redéfinir finalement tout ça en profondeur. Et il ne faut pas en avoir peur.
Il ne faut pas en avoir peur, on a une chance inouïe devant nous. Alors je veux simplement préciser qu'effectivement, avec Jean Carassus, qui est le fondateur en fait, du Master Immobilier Bâtiment Durable, nous avons dirigé, mais derrière ça...
Ah oui, vous pouvez les citer aussi, tous ceux qui ont rédigé aussi ce livre.
Voilà, on a un peu rédigé, mais on a surtout dirigé. Mais vous avez Arnaud Berger, Régis Bertrand, Gilles Chamignon, Frédéric Gall, que vous allez avoir tout à l'heure.
Exactement, c'est ce que j'allais vous dire.
Sébastien Hillouz, Denis Lacroix, Bernard Lancel, Jérôme Maillet, Béatrice Moal, Bernard Cézolis, Nathalie Chang et Jean-Christophe Vizier qui ont rédigé les chapitres. Et puis après, vous avez, je ne vais pas tous les lire, les citer ce coup-ci, 38 experts qui interviennent dans le master, mais pas simplement, sur 115, nous avons 115 intervenants dans le master, et 11 masteriens, puisque nous avons la chance de réaliser à la fin de notre formation ce qu'on appelle une thèse professionnelle en termes de la conférence des grandes écoles, et qui est un véritable think tank qui permet de participer, je dirais, à l'innovation, à la créativité dans les processus du bâtiment.
Voilà.
Et d'immobilier, évidemment.
Et donc, il faut y aller.
Il faut y aller.
Immobilier, bâtiment durable, ça va être une belle conclusion. Tout est dit aussi dans ce livre très, très détaillé, puisque vous l'avez dit, ils ont été nombreux à y participer, à réussir la transition carbone et numérique. C'est tout à fait possible. Merci à vous d'avoir été notre grand témoin aujourd'hui. Dominique Nahert, directeur du master spécialisé exécutif immobilier et bâtiment durable au sein de l'école des ponts ParisTech. Merci aussi à Guillaume Loiseau qui m'a accompagné durant cette interview. Et donc on va marquer une pause, même je crois qu'on va même pouvoir enchaîner directement, vous voyez c'est ça les directs, avec la première séquence, on va dire un peu officielle au-delà de notre grand témoin, consacrée à France Relance.
Les rendez-vous du Mondial du Bâtiment, le grand témoin, un entretien à retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.